La REF, la renaissance des entreprises de France à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF les 24, 25 et 26 août en direct de l'Hippodrome de Paris-Longchamp.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, sur Radio Territoria également. Nous sommes en direct de la REF 2021. Bonjour à tous, bonjour Linda Kebab.
Bonjour.
Vous êtes notre invitée, merci de venir sur notre plateau.
Merci à vous.
Vous êtes intervenante donc à la REF. Élodie Rabel en plateau, un petit papier on va le dire. On vous écoute Élodie Rabel.
Alors Linda Kebab, pour vous présenter un tout petit peu à nos auditeurs, ceux qui ne vous connaissent pas, ils sont rares à mon avis, vous êtes déléguée nationale du syndicat SGP Police. Vous soutenez la proposition de loi relative à la sécurité globale, l'article 24, notamment celui controversé qui interdit de filmer le visage ou quelconque autre signe distinctif des forces de l'ordre en opération, ça dans le but de porter atteinte à leur intégrité physique. À la suite de vos nombreuses, il faut le dire, interventions médiatiques, vous avez été régulièrement menacée, prise à partie sur les réseaux sociaux. En 2018, un de vos cyberharceleurs est condamné à 4 mois de prison ferme, 1 000 euros de dommages et intérêts. Et là, cette année, en 2020, vous avez publié votre autobiographie, « Gardienne de la paix et de la révolte », dans laquelle vous abordez notamment la crise des Gilets jaunes qui a fait plus de 2 000 blessés dans les rangs de la police. Des blessés dans les forces de l'ordre, dans les interventions, dans les manifestations, c'est quelque chose qu'il faut toujours craindre aujourd'hui avec les manifestants contre le pass sanitaire?
Je pense que ce sont des choses qu'il faut craindre de manière générale dès lors que l'expression de la démocratie sociale se veut de plus en plus violente. Aujourd'hui, les manifestations en France, et on l'avait vu en direct avec les Gilets jaunes, mais également avec les manifestations dites pour les libertés et contre la loi sécurité globale, ont laissé la place à des actions violentes extrêmement fortes, souvent organisées par des professionnels de la violence. Et forcément, elles portent atteinte à l'intégrité physique de ceux qui sont censés assurer notre sécurité, les policiers et les gendarmes. Et elles mettent du coup en péril leur action, leur engagement, et donc, par effet domino, aussi la sécurité d'autrui. Et malheureusement, ce qui aujourd'hui conduit à cette violence à l'égard des policiers et des gendarmes, c'est une véritable méconnaissance de leur action sur le terrain. Moi, je parle dans mon livre du fait que les policiers sont des citoyens comme les autres, et donc des gilets jaunes comme les autres. Et comment est-ce que finalement, les gouvernements successifs n'ayant pas été en capacité de parler avec les concitoyens, en tout cas avec la population, rompant peut-être aussi une partie du dialogue social avec les corps intermédiaires, comme j'en fais partie en tant que syndicaliste, et bien du coup on s'est retrouvé avec une expression populaire extrêmement violente qui forcément s'est manifestée contre les forces de l'ordre. Et puis cette méconnaissance, elle est aussi clairement une difficulté aussi pour les institutions de parler aux Français. Vous avez commencé votre propos sur la loi sécurité globale en parlant de l'article 24, et vous dites que cette loi serait amenée à restreindre la liberté de filmer les forces de l'ordre pour ne pas permettre leur identification, ce qui n'est pas le cas.
Si c'est dans l'intention de nuire à un policier.
Non, en fait, l'article 24, en fait, a été malheureusement abordé dans sa contestation, son aspect contestataire, par notamment malheureusement les syndicats de journalistes, mais aussi certains groupes d'avocats, comme étant une restriction sur la liberté de filmer. Or, ce n'est absolument pas le cas. Le mot filmer n'apparaît absolument pas dans l'article de loi. Je le sais, puisque j'en suis à l'origine. Je travaille dessus depuis près de 3 ans. Et l'idée, c'était juste de dire que dans un État progressiste, enfin, dans une société progressiste comme la nôtre et pacifiée, dans lesquelles il est important de préserver les libertés individuelles, les données personnelles et l'identification personnelle, eh bien ce petit pan de notre corps qui s'appelle le visage et que nous sommes tous attachés à protéger, eh bien il faut aussi être en mesure de le protéger pour les forces de l'ordre et donc de limiter non pas la possibilité de filmer, mais de diffuser dans l'intention de nuire, c'est-à-dire le cop-watching, vous savez, c'est cette particularité d'aller publier sur des sites internet dédiés à ça ou sur les réseaux sociaux la photo d'un policier. Oui. Peut-être en l'affublant de tout et de rien, souvent de rien, mais en fait, on va mentir sur ce qu'il aurait pu faire. Parfois même juste en annonçant le fait qu'il est policier. Et donc, on met en danger sa vie et celle de
sa famille aussi. Ouais.
Et donc, c'était juste ça qu'il fallait limiter.
C'est une sorte de kill list en ligne. Ouais, d'ailleurs, l'actualité vous donne raison, parce qu'il y a eu une recrudescence d'agressions de forces de l'ordre quand ils n'étaient pas en mission, quand ils sont encore en civil. Ça veut dire très bien qu'il y a des personnes mal intentionnées qui fliquent les flics.
Oui, malheureusement, c'est finalement cette intention malhonnête d'aller casser le pacte social qui consiste à dire que ceux qui sont chargés de notre sécurité seraient l'alpha et l'oméga du mal et des problèmes des Français, alors qu'en réalité, on vient utiliser des mensonges à l'encontre de ces policiers et de ces gendarmes, mais à l'attention de la population qui écoute. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, les institutions ne sont pas capables de contrebalancer ces discours qui viennent en fait finalement pourrir le débat public et qui viennent mettre en danger finalement des personnes pour la simple et unique raison qu'elles ont choisi un métier qui consiste à protéger les autres.
Et vous parlez d'une méconnaissance du coup des Français envers ces policiers, leur travail. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup pour vaincre cette méconnaissance ?
Il faut être en mesure de communiquer. Aujourd'hui, nos institutions policières particulièrement ne savent pas communiquer. On est dans l'opacité permanente. Et d'ailleurs, le propos de mon livre, c'était ça. C'était de casser cette opacité, ouais. De parler en toute transparence des coulisses de la police. Vous le savez très bien, on parle de manière régulière des problématiques internes, des manques de moyens, des problèmes hiérarchiques et managériaux qui forcément impactent aussi sur la sécurité de nos concitoyens, mais également les incohérences politiques aussi sur les décisions qui sont prises en matière de sécurité. Et donc, du coup, c'est aussi d'aller dialoguer avec la population, de communiquer sur... Quel est notre métier ?
Mais comment en fait ?
Quel est leur intérêt ? Eh bien, l'utilisation aujourd'hui avec le tout communicant, il y a la télé, la radio, évidemment, la presse écrite, mais aussi les réseaux sociaux. Mais on a une institution qui est encore désuète, qui est, il faut le dire les choses, obsolète.
Un peu réticente aux réseaux, etc.
Oui, totalement, elle est réticente. Elle voit d'un œil très négatif le fait que le moindre policier puisse s'exprimer, notamment sur les réseaux sociaux, et de son côté, elle ne le fait pas. Et malheureusement, ça a comme conséquence de perdre une partie de la confiance, notamment des jeunes dans la population. On a un jeune de moins de 25 ans sur deux qui n'a plus confiance dans la police, et ça, c'est un drame. Puisque si on n'a pas la confiance des jeunes, on n'a pas de vivier pour la police de demain.
Alors justement, cette confiance, comment la retrouver quand, dans les manifestations, d'ailleurs, quand il y avait les manifestations contre le projet de loi sécurité globale, ce qu'on entendait, c'était des accusations de violence policière. Il y a eu aussi des vidéos qui ont circulé de manifestations où il y avait des membres de forces de l'ordre qui avaient des gestes pour le moins violents, à l'égard de manifestants, de journalistes aussi. Est-ce que ce sont des cas isolés, des moutons noirs des forces de l'ordre ? Que faire pour endiguer ce problème de violence policière avec beaucoup de guillemets autour ?
Dans toute organisation humaine, il y a forcément des abus.
Des dérapages.
Ils sont individuels. Ils peuvent être de la responsabilité du système si elle ne les prévient pas, elle n'éduque pas, elle ne forme pas et elle ne sanctionne pas, puisqu'elle permet aussi derrière la récidive quand elle ne fait pas tout ça, notamment la sanction. Il y a des journalistes qui abusent, il y a des entrepreneurs qui abusent, il y a des médecins qui abusent de leurs patientes. Et pourtant, on a, pour ces groupes-là, jamais eu l'audace d'associer le nom du groupe à quelque chose de néfaste. Parce qu'on a pour optique d'abord de mettre en avant le bienfait de leur rôle, le rôle bienfaiteur dans la société, qu'il s'agisse des journalistes, des médecins, des hommes politiques, etc.
Bon, les journalistes sont décriés aussi.
Pardon ?
Les journalistes sont décriés aussi.
Oui, bien sûr, mais je veux dire, ils sont décriés, mais on va dire les abus de certains peuvent mettre en péril finalement la confiance que peut avoir la population à l'égard.
On en parle moins que ceux des policiers, en tout cas.
Mais on en parle beaucoup moins. Ceci dit, c'est aussi un danger pour une démocratie, finalement, la perte de confiance de la population dans le discours journalistique. On le voit derrière ces discours complotistes.
Après, les violences, forcément, ça choque plus, en fait, parce qu'il y a des images, il y a des...
Le problème, c'est qu'il y a deux choses. C'est que les violences des policiers, entre guillemets, c'est l'usage de la force. C'est-à-dire que l'État en France a donné une délégation à un groupement de personnes en leur disant « vous avez l'autorisation d'user de la force sous le contrôle de la justice ». L'usage de la force, donc de la violence dite légitime, ça n'est jamais beau à voir. Si je filme une action de police, on a tous vu l'attentat de l'hypercachère, l'assaut final de la BRI et le terroriste criblé de balles. C'est violent ? Est-ce que c'est illégitime ?
Non.
Voilà. Pourtant, c'est violent.
Et c'est ce qu'on appelle le contexte. Vous pensez sorti du contexte, en fait. La plupart des images sont sorties du contexte.
Et malheureusement, aujourd'hui, les idéologues ont tendance à dénigrer le contexte en disant que toute violence de la police est illégitime. Et c'est là le danger de l'expression violence policière.
On ne peut pas mettre sur le même niveau un terroriste et un manifestant.
Non, je vous ai parlé de quelque chose qui ne fait pas débat, en fait. Mm-hmm. Et le problème, c'est que vous avez aussi, dans le cadre des manifestations dites violentes, des usages de la force qui peuvent conduire à des blessures en face. Parce que en face d'eux, il y a des personnes qui attendent aussi à la vie ou à l'intégrité physique des policiers. Et donc, qui, en réponse, vont avoir une action violente. Vous avez les vidéos qui sont tronquées, qui ne mettent pas en œuvre le contexte. Il y a évidemment des abus, des dérapages. Et cela, il faut les prévenir, éduquer et sanctionner quand ils ont lieu.
Et justement, ces dérapages, est-ce que ce ne serait pas un problème de recrutement au sein de la police ?
De formation ?
De recrutement, je ne pense pas, parce qu'on recrute dans la population, sauf à dire que la population est fondamentalement
Oui, mais il y a un recrutement qui s'est quand même élargi.
Non, je pense que la police est à l'image de la société. Et justement, la police évolue. Elle est de plus en plus diverse. elle est de moins en moins monolithe, elle a une pluralité politique, philosophique, religieuse et ethnique qui est extrêmement forte. C'est d'ailleurs l'administration la plus diversifiée en France, tout ministère confondu, le ministère de l'Intérieur a le label diversité, c'est aussi pour cette question. Mais le sujet, c'est comment est-ce qu'on aborde la question de l'usage de la force pour les policiers. Je reviens sur l'expression violence policière, c'est important de le dire et je tiens à le dire toujours aux journalistes. On sait, on a documenté aujourd'hui qu'il y a des violences, des maltraitances dans les EHPAD qui parfois conduisent à la mort. On n'associera jamais infirmière à violence, on ne parlera jamais de violence infirmière. Parce que dans nos paradigmes de société, il n'est pas concevable de dire qu'une infirmière est de nature violente. Elle vient sauver la vie, elle vient assister. Et donc du coup, quand on dit violence policière, c'est-à-dire que fondamentalement, on vient annoncer que le policier est violent. Et en réalité, cette expression qui a vocation à démilitariser la police est profondément politique. Elle a été aujourd'hui reprise un petit peu par tout le monde, et en particulier par les journalistes. Et elle vient dire que tout acte violent de la part de la police doit être dénoncé, puisque tout usage de la force est une violence policière. Et du coup, quand on utilise le mot violence, qui dans le code pénal est un délit, on dénie ce droit à l'usage de la force. Et donc, de la même manière qu'il ne viendrait à l'esprit de personne de décrier le travail des infirmières en utilisant l'expression violence infirmière, je pense aussi que c'est très, très insultant pour ceux qui engagent leur intégrité physique, voire même leur vie, d'utiliser l'expression violence policière. On peut parler de la violence illégitime de certains policiers, des dysfonctionnements internes dans notre service, dans nos institutions qui ne font rien contre, il faut dire les choses. Mais violence policière, ça veut dire que tout acte de policier est fondamentalement violent.
Et il y a un mal-être, excusez-moi Bérénice, est-ce qu'il y a un vrai mal-être dans la police, justement, quand on parle de violence policière, quand dans les manifestations, on entend des slogans comme « tout le monde déteste la police », que sur les murs des grandes villes, on voit écrit partout « ACAB ». Est-ce que ça décourage des futures vocations? Est-ce que dans les rangs de la police, il y a une lassitude, une vraie souffrance au travail, une sorte de déni de liberté d'exercer son travail?
Alors, on sait très bien qu'il y a derrière un pendant idéologique et politique, derrière ce type de discours, tout le monde déteste la police ou ACAB. Malgré tout, on ne s'y fait jamais. Il y a forcément une lassitude qui s'installe. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'aspect idéologique qui a trait, en fait, tout simplement à la liberté d'expression, il y a le sentiment qu'on laisse beaucoup dire ce discours. Je ne fais que reporter le propos des policiers, qu'on laisse beaucoup dire ce discours qui est une liberté d'expression, mais qu'en face, l'institution ne contrebalance pas et n'équilibre pas en rappelant finalement les valeurs nobles, en fait, de la police, de la gendarmerie. Moi, je parle de la police en particulier qui a beaucoup, beaucoup à prendre, pour exemple, sur la gendarmerie qui est loin en avance.
Et donc, c'est dû à quoi, ça? C'est que la gendarmerie soit plus en avance?
Les militaires. Ils sont militaires, donc ils ont forcément une organisation qui
plus
est
rigoureuse, plus
compétente. J'ai pas de problème à le dire. À la tête des gendarmes, vous avez un général de gendarmerie. À la tête des policiers, vous avez souvent un administratif qui sort de l'ENA. Je dénigre pas les personnes qui sortent de l'ENA, sauf que c'est difficile de parler du terrain policier et de la sécurité quand vous êtes un administratif.
Bien sûr. Ils n'ont pas la pratique.
Ouais. Et surtout les mêmes envies de défendre leurs hommes, parce qu'il y a aussi des ambitions autres de
parler. Ils sont déconnectés, selon vous?
Je dirais pas qu'ils sont déconnectés, je pense qu'ils ne se sentent pas concernés. C'est-à-dire qu'ils ont tout à fait conscience de ce qui se passe, mais ils ne se sentent pas concernés. Il y a une espèce d'opacité permanente dans la police, vous savez, c'est encore différent. Alors, on décrit souvent et on dénigre souvent la gendarmerie en disant qu'elle fait partie de la grande muette, mais elle a au moins le mérite d'avoir des hommes en direction qui ont conscience des difficultés de leurs hommes et de la nécessité pour la gendarmerie aussi de se renouveler quand il le faut. Et pour preuve, j'ai aujourd'hui partagé une tribune avec une porte-parole de la gendarmerie. Est-ce que vous voyez l'institution policière représentée aujourd'hui? Non, elle ne sait pas parler à la population, et ça, c'est le grand mal de la police nationale. Elle ne sait pas parler à la population, même aux entrepreneurs, même ceux qui font l'économie de ce pays, et même aux journalistes.
Il y a un compte Twitter qui marche pas mal. Alors, pour le coup, c'est de la gendarmerie, c'est la gendarmerie des Vosges. D'ailleurs, celui qui tenait ce compte Twitter a été recruté à la gendarmerie nationale à Paris. Est-ce qu'il faudrait, dans la police nationale, aussi des comptes Twitter qui soient plus... sur le biais de l'humour, de la sympathie, un peu plus proche des gens pour changer l'image de la police?
Il y a différents biais pour aborder en fait un discours à l'égard de la population. Il y a évidemment le fait de choquer, on le voit souvent dans les campagnes de sécurité routière, mais également dans ce même type de campagne, il y a aussi l'utilisation de l'humour. Donc c'est aussi un biais comme un autre. Utiliser que l'humour, non, en fait, l'idée, c'est pas de rentrer dans un placard.
Alors, après, l'humour, c'est peut-être plus pour les jeunes.
Oui, en fait, la particularité de ce compte Twitter, c'est qu'il se limite aux Vosges, au 88, et donc, du coup, il peut se permettre, puisqu'au final, il n'a vocation qu'à parler de l'actualité sur le département qui n'est pas extrêmement florissante. Mmh. Et donc, du coup, qui, à côté de ça, va parler de manière un petit peu plus légère des questions beaucoup plus sérieuses. Mais à côté de ça, il y a les comptes institutionnels de la gendarmerie qui font le travail de manière sérieuse. Et donc, du coup, on peut très bien trouver un équilibre entre les deux, entre l'institution qui s'exprime de manière très sérieuse...
Oui, le compte humoristique sur Twitter.
Et une déclinaison très locale. Alors, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'on est dans une institution avec un millefeuille hiérarchique, un millefeuille administratif.
Tout prend du temps.
Toute décision doit être validée par celui qui valide et par celui qui autorise le valideur.
Du coup, rendez-vous dans 10 ans.
La particularité du compte de la gendarmerie des Vosges, je le dénigre pas, il est très bien dans le fond, puisque pour preuve, vous en parlez, et que donc, du coup, peut-être, y a-t-il une partie de son message, en tout cas, ce qui est important, qui est resté.
Ça a résonné au niveau national, ça a dépassé les frontières des Vosges.
L'intérêt, après, des comptes institutionnels, c'est surtout de faire passer des messages, notamment en matière de sécurité, de prévention, etc. Donc, je suppose qu'il y a un reste, il y a quelque chose qui reste quand on lit ces tweets humoristiques. Mais ce compte a pu exister tel que vous le décrivez, parce que c'est un capitaine de gendarmerie qui était derrière. Et j'ai fait le calcul, ça fait 32€ le tweet. Je pense que la police n'est pas encore prête à dégager un budget pareil.
Les femmes dans la gendarmerie comparées aux femmes dans la police nationale, elles sont mieux traitées, ou pas entre guillemets traitées évidemment, mais on connaît les femmes dans la police, c'est pas toujours évident, vous en avez fait les frais.
Alors c'est assez difficile parfois pour les femmes dans la police, même si elles sont de plus en plus présentes dans l'ensemble des directions. Aujourd'hui, c'est de parvenir à faire entendre leur crédibilité au sein des directions qui sont jugées aujourd'hui très viriles. Les CRS, les PJ notamment en matière de stup ou de banditisme.
Mais c'est le cas ou c'est vraiment comme ça ou c'est juste une image?
Ça va piano, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense qu'il y a un vrai problème de mentalité. Je pense que, pas que ce soit policier, je pense que c'est vraiment un problème de société.
Masculin en fait.
Très masculin, il faut être honnête. On a trois quarts d'hommes en fait dans la police et en fait.
C'est un peu comme dans les entreprises.
Très fortement, mais exactement comme dans les entreprises ou dans les rédactions de journalistes. On sait très bien qu'il y a un machisme dans les rédactions de journalistes, mais également dans les entreprises qui sont extrêmement masculines. La particularité de la gendarmerie, c'est que ce sont des militaires. Donc déjà, il y a cette fameuse grande muette. Et il y a un deuxième point qui est important. On a souvent tendance à parler de la police et de la gendarmerie de la même manière. Or, si la gendarmerie couvre les trois quarts du territoire français, elle couvre 25% de la délinquance parce qu'elle est en ruralité, essentiellement, et en toute petite agglomération. La police est en grande agglomération. Et il y a un deuxième point qui est important, c'est que les gendarmes vivent en caserne, ils vivent entre eux. Et donc, du coup, ils nourrissent et il y a une répétition des pratiques et des habitudes, bonnes ou mauvaises, là où les policiers vivent avec la société. Souvent, on parle des réservistes dans la police et la gendarmerie. Ça a du sens dans la gendarmerie, ça a moins de sens dans la police, puisque les policiers vivent avec les concitoyens. Nous sommes vos voisins.
Bien sûr.
Et donc, du coup, je pense que sur la question des femmes, je pense que la police a certainement mieux fait que la gendarmerie parce qu'elle est ouverte à la société.
Oui. Une dernière question d'actualité, Linda Kebab. On a beaucoup parlé ces temps-ci des violences dans les quartiers nord de Marseille. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagi et veut déployer plus de caméras de vidéosurveillance. Alors ça, c'est le côté de la majorité. En face, on dit qu'il ne faut pas faire de la surenchère sécuritaire. Vous, quel est votre point de vue pour endiguer ce phénomène de violence des quartiers? Est-ce qu'il faut filmer plus? Est-ce qu'il faut mettre plus d'effectifs de police dans les quartiers?
Le problème de la sécurité, c'est que souvent, un problème de politique partisane. On s'oppose pour s'opposer et tant pis pour les conséquences. C'est un peu comme pour la santé, j'ai envie de dire. Le problème des homicides, on est à 10 ou 11 homicides en moins de 2 mois à Marseille. C'est autant qu'en une année habituellement à Marseille, et ce depuis 2017. On a eu un pic de à peu près une vingtaine de morts en 2016.
Donc il y a une accélération en fait.
En fait, il y a une accélération ces deux derniers mois. Alors, si on regarde sur les 20 dernières années, il y a une amélioration. Dans les années 90, début années 2000, c'était catastrophique. Il y a eu une amélioration et là, ça repart à la hausse. Récemment, pourquoi? Il y a deux facteurs principaux.
La crise.
C'est surtout qu'on a libéré les détenus, et notamment les trafiquants de stup, dans le cadre de la crise Covid, où il a fallu libérer des places de prison et désengorger les prisons. Donc du coup, on a des trafiquants qui sortent et donc qui veulent reprendre leur territoire. Il y a les opérations anti-stupéfiants qui sont lancées par ministres et qui désorganisent les équilibres entre les trafiquants de stup eux-mêmes. Et donc du coup, ça crée une guerre des territoires permanente avec malheureusement des victimes. Ce jeune homme de 14 ans qui n'avait rien à voir avec le trafic, c'est un enfant qui prend une balle. Et en réalité, la question, ce n'est pas est-ce qu'il faut plus de caméras ou de policiers. Il en faut, mais pas que ça. Parce que quand vous êtes un trafiquant de stup, c'est qu'il y a d'autres choses avant qui n'ont pas marché. La police et la justice interviennent quand tout ce qui est avant n'a pas fonctionné. L'instruction, l'éducation, la santé, la prévention.
Donc faire en amont, en fait.
Politique de la ville, le fait d'éclater les familles qu'on repère très vite comme étant problématiques et qui peuvent agir ensemble. Et tout ça, c'est pas du ressort de la police. Tout ça, c'est du ressort de l'éducation nationale, des assistantes sociales, des maires, des collectivités locales.
Il n'y a pas que la police. Il n'y a pas que la police.
Nous, quand on intervient, en réalité, c'est qu'il y a un échec.
C'est la fin, en fait. C'est la dernière.
Il y a un échec.
Est-ce qu'il y a des quartiers dans lesquels, à Marseille, dans lesquels les policiers ne vont plus?
Non, les policiers vont partout. J'ai de très bons amis à Félix Piat, qui est jugé comme étant le quartier le plus pauvre et criminogène de France. Je ne sais pas si c'est vrai, mais pour avoir eu l'occasion d'y aller, je vous avoue que c'est assez particulier. Et on a vraiment des policiers qui sont extrêmement courageux, qui adorent leur métier, qui adorent leur job.
Et qui y vont.
Et qui y vont, qui montent sur les toits, qui vont aller démanteler les trafics de stupes. Et lorsqu'ils redescendent, quand vous avez des mamas, des dames qui sont en France depuis peu, qui remercient les policiers en disant « Merci à vous, venez plus souvent, parce que j'ai peur que mon fils tombe dans
Mais
ce trafic. »
Mais venez plus souvent, ça veut dire qu'ils viennent pas souvent au final.
Ils aimeraient qu'ils soient là tous les jours. Évidemment, les policiers ne sont pas assez nombreux. Surcharge de travail, surcharge administrative. On est souvent tenté de pointer du doigt les millefeuilles administratives, les surcharges administratives à l'égard des entrepreneurs. Mais dans les institutions, c'est le même problème. C'est-à-dire que le plus gros de notre travail aujourd'hui est de plus en plus administratif, ou en tout cas rédactionnel.
Oui. Et donc, les procédures doivent être carrées.
Voilà, il faut que ce soit carré, mais même des rapports administratifs. C'est-à-dire que vous rédigez un rapport administratif pour expliquer que vous avez utilisé votre lanceur de balles de défense. Puis après, vous faites un procès verbal judiciaire. Mais de rendre compte, oui, mais quand vous faites un rapport administratif, puis un PV judiciaire pour dire la même chose, puis vous allez sur le logiciel pour dire la même chose, puis vous allez voir l'officier de police judiciaire pour lui rendre compte pour lui dire la même chose, au final, il y a une grosse perte de temps et ça se fait au détriment de vous, en fait, et
les
de ceux
réels,
qui ne peuvent
ouais.
pas se protéger autrement que grâce aux policiers et aux gendarmes. Et quand des mamans nous disent aux policiers dans des quartiers qui sont très difficiles, contrairement à ce qu'on peut croire, la population là-bas ne déteste pas la police, au contraire, elle aimerait l'avoir plus souvent.
Bien sûr, parce que c'est les premiers lésés, en fait, dans les quartiers.
C'est les premiers lésés, c'est des gens qui sont en précarité sociale et en plus, il y a précarité sécuritaire. Donc,
qui disent,
moi, j'ai pas les moyens de faire concurrence aux trafiquants de stupes. Mon fils, je sais qu'ils essaient de le démarcher pour 50 euros par jour, je ne veux pas. Venez plus souvent démanteler le trafic de stupes. Et vraiment, sur ça, les policiers y vont. Pas beaucoup de moyens, un peu la peur au ventre et c'est humain, mais ils y vont quand même.
Très bien.
Un message peut-être à faire passer. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Un message pour les candidats de 2022, Lina Kebab.
Pour les candidats, je n'ai pas de message à faire passer puisque de toute façon, on est dans la politique partisane et ça ne m'intéresse pas vraiment. Je pense que plutôt le message, il doit être auprès des acteurs de notre société et notamment les entrepreneurs. Ils doivent participer à la décision. Ils participent à la décision aujourd'hui. Ils font tourner l'économie, ils créent de l'emploi. Bref, ils doivent être entendus. Et c'est à eux plutôt que j'ai un message à faire passer en leur disant « Votre liberté d'entreprendre dépend aussi de votre sécurité ». Et quand aujourd'hui en France, parce qu'il y a des dysfonctionnements en fond, qu'une partie des policiers sont assignés à des tâches administratives ou à la surveillance de profil, parce qu'on n'a pas été en mesure, par exemple, d'anticiper sur leur radicalisation, et c'est votre entreprise derrière qui est en danger et qui est exposée parce qu'il n'y a pas de policiers pour s'en occuper. Et donc je pense que c'est plutôt aux entrepreneurs aujourd'hui que le message doit être passé en leur disant « Vous avez une liberté d'entreprendre, vous êtes attaché à cette liberté-là ». Assurez-vous juste que les hommes politiques, et en tout cas les candidats à la présidentielle, vous garantissent toujours cette sécurité.
Merci beaucoup, Linda Kebab, d'avoir été avec nous sur le plateau de Territoria et de Radio-IMO à la REF 2021.
La REF, la renaissance des entreprises de France, à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF, à réécouter et télécharger sur le site et l'application radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.